gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Elle a reçu en 2010 le prix du gouverneur général du Canada pour les arts de la scène, un hommage à son illustre carrière à titre de comédienne, mais aussi de metteuse en scène, d'auteur, d'animatrice et même de journaliste. Elle a aussi enseigné au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et au Collège Lionel Groulx, option théâtre. Elle contribue au premier grand succès du théâtre du Nouveau Monde. Mentionnons entre autres « L'échange de Claudel » en 1956 ou « Joue en Marthe », elle donne la réplique à Jean Gascon et Jean-Louis Roux, les cofondateurs du TNM en 1951. Au gré du temps, elle a toujours assuré une présence formidable dans notre univers théâtral et artistique. Avec grand plaisir, nous recevons Françoise Fauché. Bonjour à vous.
Bonjour. Que vous me présentez gentiment.
Est-ce que je peux vous confier un secret?
Oh, j'aime les secrets.
Vous nous manquez beaucoup.
Oui, ça s'explique quand même. Je ne suis pas d'une... la prime jeunesse, n'est-ce pas? Mais ça, ça n'a rien à voir, dans le fond, parce que on a une comédienne en France, par exemple, qui s'appelle Gisèle Casadesus, et qui a encore des projets de cinéma, et elle vient d'avoir 100 ans. Alors donc, l'avenir est devant moi, n'est-ce pas?
Absolument.
Mais ce qu'il y a, c'est que depuis quelques... enfin, deux ans, disons, il est arrivé pas mal de choses dans ma vie
dont le décès de votre conjoint,
exactement,
Jean Fauché.
Le 1er février 13. Et j'ai fait des petits problèmes de tachycardie, de choses comme ça. Si bien que j'ai un petit peu perdu confiance dans ma vieille carcasse. Alors, comme dit la chanson, il suffirait de presque rien, mais peut-être que je redémarrerai, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai besoin de calme et j'ai besoin aussi d'apprendre, chose que je ne connaissais pas, apprendre à vivre seul, la solitude, m'organiser avec ça.
Et ça vous pèse lourd, cette solitude ?
Ça dépend des jours, ça fluctue beaucoup. Des fois, c'est accepté. D'autres fois, ça se manifeste par un petit peu d'angoisse. On se demande, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Et puis, avec tous les amis qui s'en vont les uns après les autres, on finit par être extrêmement... conscient qu'il y en a moins devant qu'il y en avait à l'arrière.
C'est curieux ce que vous dites parce que votre camarade Gérard Poirier, que nous avons reçu récemment, mentionnait que ce n'était pas tant la scène qui lui manquait comme les camarades.
Tout à fait. Tout à fait. Cette espèce de famille que nous formons, cette profonde amitié qui nous lie tous. Il se passe ici au Québec quelque chose de beau. La colonie est artistique, s'entend. La colonie est plus réduite que dans les grandes métropoles comme Paris ou New York et tout ça. Et j'ai l'impression, enfin, je me fais peut-être des illusions, qu'il y a moins une espèce de compétition frénétique et puis ôte-toi de là que je m'y mette et tout. On a tous commencé ensemble.
Voilà, d'autant oui. Que c'était à une époque où il y avait une effervescence, la télévision qui était naissante.
Tout à fait.
Il y avait bien sûr, bien avant, les radioramas qui ont permis à plusieurs de pouvoir effectivement s'exprimer. Mais quand est arrivée la télévision, d'aucuns n'ont pas réussi à passer de la radio à la télévision et arrivaient de nombreux jeunes comédiens qui ont grandi ensemble.
Exactement. Et dont je faisais partie, en fait. Moi, je suis arrivée ici de Paris en 51. Et puis, en 52, la télévision commençait. Alors, et j'ai vu arriver Gérard Poirier un jour dans un studio de radio, ce grand beau garçon qui avait l'air un petit peu désemparé d'être dans un milieu qu'il ne connaissait pas. Alors, gentiment, je suis allée vers lui, je me suis présentée et puis je lui ai dit, voilà, vous vous mettez à tel endroit, puis... vous essayez de faire pour le mieux, bon, et tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on ne s'est plus perdu de vue.
Une amitié qui ne s'est jamais...
Démentie. Non.
Alors, d'ailleurs, je vous demande d'être à l'écoute de ce que vous allez maintenant entendre. Parce que M. Poirier a peut-être un petit mot à vous adresser et on écoutera par la suite Charles Trenet, Le bonheur ne passe qu'une fois.
Françoise, c'est ton ami, ton frère. Je n'ai pas besoin de me nommer. Je suis certain que tu as reconnu ma voix. Tu vas entreprendre à Radio VM une très belle aventure. C'est une aventure qui va te ramener dans le passé. C'est très émouvant, je m'autant te prévenir, mais c'est aussi extrêmement enrichissant. Enrichissant pourquoi ? Parce que on prend vraiment conscience de tout le travail que nous avons pu faire. Et je pense à tout ce que nous avons fait ensemble, toi et moi. C'est considérable. C'est considérable. Et je ne veux pas énumérer, mais de la pension Velder jusqu'aux lectures publiques que nous avons faites, ça a été un bonheur constant. Alors, ma chère et belle Françoise, je te laisse aux soins de gens extrêmement chaleureux qui vont te donner beaucoup de bonheur. Bye.
Hâtez-vous d'aimer, mademoiselle, car demain, une rose fanée au jardin vous dira combien le printemps était court, avec lui la joie et l'amour. Ne soyez pas une vieille accroupie, comme dit Ronsard, cueillez la rose jolie, et pour cela n'attendez pas trop tard. Voici mon cœur, prenez-le dès ce soir, car poum, poum, le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous appelle, le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez-le quand il effleure d'un grand coup d'aile votre petit cœur comme un oiseau effleure un ciel de joie. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez-le quand il vous tend les bras. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous appelle. Le bonheur ne passe qu'une fois. Mais prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez-le quand il effleure d'un grand coup d'aile votre petit cœur comme un oiseau effleure un ciel de joie. Oh, le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez-le quand il vous tend les bras. Le bonheur ne passe qu'une fois.
Oh, il faut continuer à parler après ça. C'est difficile. Comme on dit, on a un peu le moton. Hein. Oui. C'est beau l'amitié. Hein. Une amitié qui dure depuis si longtemps. Et effectivement, on a beaucoup travaillé ensemble. Et ce qui était formidable avec Gérard, avant d'entrer en scène, on se disait, il ne peut rien nous arriver. Tu es là, je suis là. Et même si on cafouille un petit peu, hop, on va retomber sur nos pattes. Et puis, il y avait une espèce de sûreté. Et ce qui est bien, c'est qu'on a ce travail-là qu'on a fait ensemble, on l'a prolongé très récemment encore. On faisait des lectures. Je me rappelle de de lettres d'amour qu'on avait fait, qui est une très belle pièce faite à partir de d'une correspondance entre deux amoureux. Et puis on a fait aussi une très belle lecture publique, c'était la correspondance de George Sand et de Flaubert. Et à chaque fois, et puis du Guitry aussi, où on a eu un plaisir fou.
Cette chimie entre Gérard et vous, elle était palpable même pour le public, qui souvent vous associait comme mari et femme, tellement vous étiez presque en fusion l'un l'autre comme comédien.
Oui, oui, oui. Les gens nous voyaient ensemble beaucoup sur scène, se disaient, bah, ces deux-là, bon, ils ont l'air de bien s'aimer. Et on me demandait, et alors comment va votre mari? Et comme mon mari, Jean Fauché, était réalisateur au téléthéâtre de Radio-Canada, je me doutais bien que ce n'était pas de lui qu'on allait me parler. Alors j'ai dit... Gérard Poirier, peut-être. Oui, oui, oui.
C'était, et tout cela a commencé d'ailleurs dans les studios, je crois, de Radio-Canada, au sein de ce téléroman qui avait pour titre La Pension Velder.
La Pension Velder, c'est ça.
C'est un beau souvenir.
Il faisait Marcel Latour, mon amoureux, et moi j'étais Élise Velder, bon chic, bon genre, n'est-ce pas? Et puis, oh, un jour, il nous est arrivé une drôle de chose. Mon mari n'était pas réalisateur à ce moment-là, mais régisseur, justement sur La Pension Velder. Et la scène se terminait par un baiser entre les deux amoureux, donc Gérard et moi. Et le régisseur qui était là nous a fait signe de prolonger et de prolonger.
Parce que nous étions en direct à ce moment-là.
Oui.
Il faut bien le dire.
Et Jean était là, mon mari, il voyait tout ça, ce baiser qui se prolongeait. Et en fait, c'était pour faire une blague à Jean. On avait, évidemment, quand c'est passé, ça avait été coupé depuis fort longtemps, mais il disait, il nous faisait des signes, encore.
Vous avez beaucoup été présente à la télévision.
Oui.
Présente non seulement comme comédienne, mais aussi comme chroniqueuse. Vous avez été de Femme d'aujourd'hui.
Et bien avant.
Et bien avant, avec d'autres émissions qui s'adressaient particulièrement à la gente féminine.
Exactement. C'était les émissions féminines de l'après-midi.
On pense à Votre enfant, mesdames.
Ça a commencé par Rêve-réalité.
Rêve-réalité.
Oui, et ça c'était en 53-54. Et il y avait Jacques Normand, qui était l'animateur, et Andréane Lafont.
Andréane Lafont.
Aussi, oui.
Il y a eu aussi Si Santé m'était compté.
Oui.
Carrefour, Psychologie de la vie quotidienne.
Ah, ça, c'était à la radio.
À la radio.
Avec Monsieur Chantrier.
Chantrier.
Oui, oui, oui.
Et Femme d'aujourd'hui, vous y avez été présente pendant de nombreuses années quand même.
Ah, pendant tout le temps. Tout le temps, avec des choses magnifiques à faire et en toute liberté. Là, vraiment. Il faudrait parler longuement de Radio-Canada et verser beaucoup, beaucoup de larmes sur Radio-Canada et ce qu'on est en train d'en faire, malheureusement. Ça a été une tribune extraordinaire. Tout nous était permis.
Et on n'a pas idée de l'importance qu'a eue cette émission phare, qui est Femme d'aujourd'hui, au plan de l'émancipation des femmes.
Totalement.
Parce que vous abordiez des sujets, là, qui n'avaient pas droit de citer. Et vous osiez, finalement, ouvrir des voies pour qu'on puisse commencer à réaliser que la femme avait droit à la place qui lui appartenait.
Exactement, oui, oui. Alors, on nous a dit, oh, vous voulez sortir les femmes de leur foyer. Bon, on a été critiqués, mais on ne voulait pas les sortir de leur foyer. On voulait tout simplement leur dire, en dehors des enfants et du ménage et de la cuisine et tout ça, vous avez votre place à prendre dans la société à égalité avec les hommes.
Et cette émission avait un auditoire très vaste.
Très, 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 très vaste. Très vaste. Et je me rappelle, à un moment donné, on s'est dit, ce qu'on se dit beaucoup maintenant, « Oh, il faudrait que ce soit plus ludique, il faudrait que ce soit plus festif. » Le rire est roi, hein, maintenant. Bon, d'accord. Et moi, j'avais des amis autour de moi qui étaient des femmes tout à fait simples et qui disaient, « Moi, je ne l'écoute plus l'après-midi. Ça avait changé et tout ça. » Je n'apprends plus rien. les gens ont besoin d'apprendre, même si c'est un peu difficile. Je crois qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance à l'intelligence des téléspectateurs, des auditeurs. Les amener plus loin, plus haut, leur ouvrir des portes.
Et vous parlez d'intelligence. Cette intelligence a toujours été présente chez vous aussi à titre de comédienne. Vous avez joué des rôles parfois dramatiques.
Souvent.
Plus souvent qu'autrement, mais on vous a retrouvé parfois dans des rôles un peu plus légers où vous trouviez quand même votre place.
Les rôles légers, j'ai fait beaucoup de théâtre d'été.
Oui. C'est ce à quoi je faisais référence.
La comédie de boulevard, voilà. Et tout ça. Ça n'est pas si facile que ça. Il faut être d'un très grand naturel, avoir la réplique rapide, savoir se déplacer le plus naturellement possible et allègrement, enfin ça va de soi. Mais ce qui est formidable dans ces choses-là, c'est les vitamines que ça nous donne, l'élan que ça nous donne. On sort de scène, on a 20 ans. Alors oui, non, mais j'ai fait beaucoup de très grands rôles dramatiques et qui m'ont apporté une ouverture sur le monde extraordinaire. Alors, les grands textes.
Trempons-nous dans une autre époque. Vous nous proposez Cora Vauquer, la créatrice de cette chanson merveilleuse qui a été reprise par tellement d'artistes de variété, Les Feuilles Mortes.
Ça, c'est la chanson de mes 20 ans.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants
Les Feuilles Mortes, Cora Vauquer, la chanson de vos 20 ans, disiez-vous.
Oui. J'aimais Prévert et Cosma. J'aimais Cora Vauquer. Et j'ai eu la chance un soir, ici même, de dîner avec elle. C'était
vraiment
devenu une très vieille dame, fragile, un être poétique. Et j'aimais chez elle, quand j'étais jeune, elle était déjà très, enfin, très installée dans le métier, mais... Elle apportait, c'est ça, une poésie, un mystère, une tendresse qui tout de suite m'a profondément touchée.
Est-ce que c'est cette façon de vivre, c'est-à-dire être imprégné par des sentiments de toutes sortes, qui vous a amené un jour à dire « je serai comédienne » et j'essaierai de transposer auprès de l'auditoire toutes ces émotions qui peuvent nous habiter les uns les autres?
Je pense que vous avez mis le doigt là où il fallait, effectivement. Je suis née dans une drôle de famille avec un grand-père, une grand-mère, une maman, mais pas de papa. Ma maman était, comme on disait dans le temps, fille-mère. Nous dirions aujourd'hui
mère célibataire,
c'est ça, oui. Et bon, je suis née en 29 et rester auprès de sa maman célibataire en 29, c'était déjà étonnant. Je crois que je suis née sous une bonne étoile.
Donc une mère forte, cependant.
Une mère forte. Une mère merveilleuse, c'est elle a toujours été pour moi une adoration et un exemple. Et il y avait aussi mes grands-parents. Et mes grands-parents venaient de Tchécoslovaquie. Et ils parlaient en français avec un petit accent étranger. On les prenait un petit peu pour des Alsaciens. Mais la Tchécoslovaquie, vous rendez-vous compte, quand petite, on vous parle de Prague. Ma grand-mère venait de Marienbad, vous savez, l'année dernière à Marienbad, oui. Donc, ils apportaient avec eux un mystère, le mystère d'un pays d'ailleurs.
Et ils ouvraient la voie à l'imaginaire.
Totalement, totalement. Ils étaient dans la couture. Il faisait des belles choses, on aimait le beau, le bien fait, le bien fini. Ils étaient curieux d'un tas de choses. On mangeait à la maison des plats tchèques, évidemment. Donc, on était des Français un petit peu différents. Si bien que... Puis ma grand-mère me racontait des histoires qu'elle inventait, ou bien tous les contes de Grimm qu'elle me traduisait d'un livre qu'on avait. Donc...
Donc, très jeune, vous baignez dans un univers où...
Et une grand-mère qui, le soir, on se mettait dans le jardin, parce que j'habitais la banlieue de Paris, avec un jardin magnifique, tout petit, mais où il y avait tout. On s'asseyait sur le banc et on regardait les nuages. Et elle me disait, regarde là, il y a un visage. Et puis là, il y en avait un autre. Et là, ça, c'est un chien. Et le ciel était peuplé de personnages et de choses bizarres, si bien que tout ça, le pays étranger dont on me parlait, la cuisine un peu étrangère que je mangeais, ma maman qui avait fait du théâtre amateur, ma maman qui avait une très 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 belle voix quand elle chantait, tout ça créait une atmosphère qui était certainement sujette à la rêverie. J'étais fille unique, bien sûr, et il y avait les costumes de théâtre de maman qui étaient au grenier, qu'elle avait porté quand elle faisait son théâtre amateur.
Si bien que vous étiez prédestinée à faire la carrière que vous avez réalisée.
Et j'allais au cinéma, et j'ai vu Greta Garbo.
Oh là là!
Et là, ça a été le choc. J'ai dit... Devant cette beauté, devant tout ce qui passait à travers elle, il faut faire ça.
Alors, prenons le temps de méditer sur tout ce que vous venez de nous évoquer comme belle image, avec cette pièce de Schubert, La fantaisie pour piano à quatre mains, et elle est interprétée par deux interprètes que vous adorez, Rodoulou Pou et Murray Perea.
Merci.